Sikensi et partout en Côte d'Ivoire, bonsoir à tous. Le RHDP se consolide sur le territoire et conforte son ancrage national avec deux communes et une région remportées lors des élections locales partielles du 2 décembre. Ce sont les propos de Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP. Et puis, hors de la Côte d'Ivoire, le gouvernement sierra-léonais a annoncé ce lundi 43 nouvelles arrestations, portant le nombre total de personnes arrêtées à 57 suite à la tentative de coup d'État du 26 novembre dernier. Élections locales partielles du samedi 2 décembre 2023 dans 10 circonscriptions, avec deux communes et une région remportées, le secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP, Doumbia Brahima, se réjouit de ce que son parti se consolide sur le territoire national et conforte son ancrage. Extrait d'une interview accordée ce lundi 4 décembre 2023 à Radio de la Paix, écoutons Doumbia Brahima qui, au passage, se félicite de ce que les élections du samedi 2 décembre 2023 en Côte d'Ivoire se sont globalement bien déroulés, c'est-à-dire sans trop de heurts. Doumbia Brahima.
Je pense que ce sont des élections qui se sont passées dans de très bonnes conditions, globalement en tout cas. Il n'y a pas eu d'incident majeur sur l'ensemble du territoire, à part la commune de Ferke où nous avons connu quelques échauffourées. Au niveau des résultats, le RHDP se consolide sur le territoire national, avec deux communes que nous avons remportées, la commune de Koumbala dans le nord et la commune de Kwibli dans le Guémont. Nous avons également remporté l'élection régionale dans le Guémont, c'était la seule région qui était en compétition, ce qui conforte l'ancrage national donc du RHDP. Bon, nous constatons que nous avons perdu dans d'autres localités où des indépendants ont gagné. Nous avons déjà fait un séminaire qui a déjà travaillé et qui a déjà statué sur tout ce que nous devons faire prochainement pour être encore plus fort au niveau national. Je pense que les résultats donc confortent les recommandations donc de ce séminaire.
Des propos de Doumbia Brahima, extrait d'une interview menée par Soro Adams sur Radio de la Paix. Toujours à propos des élections locales partielles du 2 décembre, depuis hier dimanche, les résultats sont connus et aucune surprise si l'on en croit les résultats annoncés par la commission électorale indépendante. Toutefois, les résultats de la commune de Ferke-Sédougou sont toujours en attente. Écoutons à cet effet l'analyse de Drissa Soulama, coordonnateur de la POICI.
On peut dire que l'environnement était plus ou moins apaisé dans certaines localités, mais il y a eu la violence effectivement dans d'autres localités. Mais ce qu'on constate également, c'est une confirmation des élections de 2 septembre passé. À l'exception de celle de Koumbala, les autres élections, c'est une confirmation des résultats qui ont été proclamés le 2 septembre dernier par la Commission électorale indépendante.
Aujourd'hui, le regard de tous les Ivoiriens se déporte du côté de Ferke-Sédougou, où nous sommes encore dans les attentes des résultats. Quelle lecture faites-vous de ce silence qui existe?
Ferke-Sédougou, c'est un cas regrettable et qu'il faut dénoncer à sa juste valeur. Je pense que dans la matinée du 2 décembre, les élections se déroulaient plus ou moins normalement dans le calme, mais c'est pratiquement dans la soirée, lors de la compilation des résultats, qu'on a constaté qu'il y avait eu l'incendie du siège de la commission électorale locale. Cela est regrettable et que je pense que la commission électorale indépendante doit prendre toutes les dispositions pour faire la lumière sur ces cas et poursuivre et sanctionner ces auteurs selon les lois en vigueur. Selon le mode opératoire de la commission électorale indépendante, les résultats qui sont proclamés dans les bureaux de vote sont scannés et acheminés directement au niveau de la commission centrale. Donc pour nous, il était de bon droit que la commission électorale indépendante puisse prononcer sur ces résultats-là pour que chaque acteur puisse avoir le cœur net sur ce qui s'est passé au cours de ces élections à faire que ce groupe.
Drissa Soulama à l'instant en ligne avec Gapienan Ouattara. Élection municipale partielle toujours. À San Pedro, la candidate indépendante Keïta, épouse Sissé Nakarija, a été déclarée vainqueur, confirmant ainsi les résultats des élections du 2 septembre dernier. Une victoire méritée selon certains habitants de San Pedro. Plus de détails avec notre correspondant de région, Kofi Benson.
Déclaré vainqueur avec 13 353 voix, soit 49,63%, la candidate indépendante Keïta épouse Nakarija est désormais maire de San Pedro. Une victoire méritée selon Kwadio Amenon Natacha.
Je pense que c'est une très belle victoire, une victoire méritée. Madame Sissé, c'est le choix de San Pedro, donc il ne peut pas avoir de grabuge parce que tout le monde est prêt pour cette victoire. Ces atouts, elle a un bon programme de société pour la commune de San Pedro, pour la jeunesse, pour les femmes et pour tout le monde.
Pour Sabadogo Fatmanta, il faut l'encourager à développer son programme de société.
Nous sommes fiers de cette dame-là parce que vraiment, c'est une dame de fer. Elle a dit et puis elle a fait. Même si d'autres ne croient pas en elle, nous savons que ce qu'elle a dit là, elle va le faire. Et puis ce poste qu'elle vient d'avoir hier à 0h, elle le mérite vraiment. Et nous savons qu'elle va faire beaucoup de choses pour les jeunes et ça plutôt. Pour notre jeunesse, pour nos parents, elle sera prête pour nous. Et nous aussi, nous la félicitons aussi pour cette victoire. Nous sommes avec elle jusqu'au bout.
La victoire de Keïta épouse Sissé Nakarija face à 5 hommes est un symbole qui doit amener l'homme à prendre conscience de la force de la femme, selon Kamagate Nawa.
Elle est la seule femme, et puis elle a battu tous les hommes. Mm-hmm. C'est que les hommes n'ont qu'à savoir que les femmes aussi, qu'elle peut être forte, elle est une femme battante, donc pour ses projets qu'elle va faire, on n'a qu'à l'encourager. C'est qu'elle a dit qu'elle va le faire, il faut qu'elle le fasse pour que les gens voient qu'elle n'est pas venue s'asseoir ici pour manger l'argent de San Pedro.
Une nouvelle ère s'ouvre donc sur la commune de San Pedro avec Keïta épouse, Sissé Nakarija à la tête pour 5 ans. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Du 20 au 24 novembre 2023, 8 journalistes de 4 médias différents ont été formés sur la question du genre. Initié par Media Foundation for West Africa, MFWA, avec l'appui financier de l'Agence française de développement des médias, Canal France International, CFI, et en collaboration avec l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie OLPED, le projet dénommé À Voix Égale avait pour objectif de combattre les stéréotypes et les inégalités entre les hommes et les femmes dans les médias. Christelle Yesso.
Renforcer les capacités et les compétences des journalistes en vue de lutter contre les inégalités et les stéréotypes liés au genre, tel est l'objectif de la formation destinée à 8 journalistes issus de 4 différents médias sélectionnés en Côte d'Ivoire et au Ghana. Organisé à Abidjan du 20 au 24 novembre 2023, ce projet dénommé À Voix Égale est une initiative de Media Foundation for West Africa avec l'appui financier de l'Agence française de développement des médias, Canal France International, en collaboration avec l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, OLPED. Les thèmes abordés au cours de cette formation, relevés par la formatrice Laetitia Carel-Goli.
Nous avons abordé les notions d'égalité, l'égalité de droit, d'opportunité, de chance entre l'homme et la femme. Nous avons aussi abordé les stéréotypes, parce qu'en tant que média, le journalisme en fait transmet énormément de stéréotypes, de conceptions, d'idées reçues.
La représentante de Media Foundation for West Africa, Mia Ewanignon, a invité les journalistes à sensibiliser sur le genre toutes les couches de la population.
Nous espérons toucher non seulement la population qui parle français, mais vos populations locales, celles qui sont vraiment autochtones, qui ne parlent pas le français. Donc c'est un côté vraiment important.
Les journalistes bénéficiaires se disent satisfaits de la formation reçue.
Stéphane Yao, aujourd'hui on sort de cette formation avec beaucoup de connaissances. On sait faire la différence nettement entre l'équité et l'égalité. On a compris qu'on doit soigner notre langage.
La ville historique de Grand Bassin abrite un atelier bilan sur le système de contrôle biométrique des élèves affectés de l'État dans les établissements privés d'enseignement technique et de formation professionnelle. Financé par la Banque mondiale pour 5 ans, il est piloté par le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS. Le but de cet atelier est de faire le point sur les acquis, mais également de voir les défis à relever. Mata Touré.
Il existe deux types de contrôle des effectifs des élèves affectés en Côte d'Ivoire. Le contrôle physique et électronique, et pour ce dernier, qui se fait par le biais d'un équipement de pointage, est expérimenté depuis 2 ans comme projet pilote. Il s'agissait au cours de cet atelier d'analyser les résultats du projet Yavo Itéalin et directeur de la formation initiale, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Pour nous, surtout, de pouvoir avoir une interconnexion entre ce système ABS et notre plateforme R6, notre dispositif d'inscription en ligne, parce qu'aucun élève ne pourrait être présent dans un établissement s'il n'a pas procédé à son inscription en ligne sur notre plateforme R6.
Le projet d'un coût de 10 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale a également des défis à relever. À Coubertin et coordinateur adjoint au PAGDS, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens.
On avait constaté la pénibilité de la tâche du comptage physique, les dangers que ça pouvait comporter, la marge d'erreur que cela pouvait comporter et aussi donc son incidence sur ce qu'il fallait payer, que le gouvernement devait payer, donc la juste valeur, la juste dépense. Donc c'est ça qui était important.
Cette activité pilotée par la direction d'encadrement des établissements privés s'effectue en collaboration avec d'autres structures telles que le ministère du budget et du portefeuille de l'État afin de payer la juste dette aux établissements privés qui reçoivent des élèves affectés.
Dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail des élèves, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung et l'Union européenne viennent de construire 2 préaux et procéder à la remise de ces ouvrages au lycée moderne Dion Robert et Bégoulé Alphonse Demand en présence de tous les acteurs du système éducatif de la ville. Témoin pour Radio de la Paix, Stéphane Adams.
Ces préaux construits, conjointement financés par l'Union européenne et la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, ont été remis aux différents responsables des lycées modernes Dion Robert et Bégoulé Alphonse Demand. Le représentant résident de la Fondation Côte d'Ivoire situe le cadre du deux projets.
Je suis Félix Kerdes. La construction de cette salle s'inscrit dans le cadre d'un projet jeune de valeur que nous avons mené. Et ici, à Mont, ils ont choisi des préaux dans des écoles. Les deux lycées n'avaient pas de préaux déjà définis comme priorité où les élèves soient à l'abri du soleil et de la pluie pour faciliter un peu les conditions à l'école et pour les encourager à mieux apprendre.
Le proviseur bénéficiaire à la réception de ces ouvrages.
Brémy Agon du lycée Dion Robert de Mont. Une joie de recevoir ce cadeau et dire merci à cette fondation. Pour les médias, pour le préau, on a besoin des tables, les bancs, les chaises, même une sonorisation. Je crois que ça ne nous fera pas du mal.
Koulibaly Salif du lycée moderne de Bégoulé Alphonse de Mont. Au-delà du préau, nous avons besoin d'un foyer. 26 salles de classe pour 4000 élèves. Nous avons besoin d'au moins 8 à 9 salles de classe supplémentaires et je pense que si nous avons ça, les résultats vont suivre.
Le représentant du préfet des régions du Tonkpi, Ouattara Yacouba, à cette cérémonie, a livré cet important message aux élèves bénéficiaires.
À vous mes enfants, garçons, comme filles, je vous demande de prendre soin de ce préau. Je voudrais en profiter, lancer un appel, travailler, éviter la drogue, Kadhafi, la cigarette, l'alcool, pour apporter ce que vous devez apporter à notre
Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
La région du Tchologo s'insurge contre les comportements néfastes auxquels est exposée davantage la jeunesse, d'où la formation récemment initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers son programme Prévention en milieu scolaire. De faire que c'est Dougou pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
Au Nord, la sensibilisation contre les fléaux qui minent le milieu scolaire a un écho favorable. Nous certifie Mathurin C.I. Bonaventure, coordonnateur national des activités de prévention dans ce sens.
L'année dernière, nous n'avons pas entendu parler de congés anticipés à Ferke, à Korogo et à Bundiali. Dans les établissements où nous intervenons, le nombre de grossesses a baissé de façon drastique. Au niveau des comportements des élèves, nous voyons que les élèves prennent à cœur les études, ce qui fait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire même, la région région du Tchologo a eu le meilleur pourcentage au niveau du baccalauréat l'année dernière.
Pour preuve, cette adhésion des élèves.
Je me nomme Sigima Mapogo. Nous voudrons être les élites de demain. Donc, je demande à tous mes camarades de dire non à la drogue, à l'incivisme. Je suis jeune fille, étant en classe de première AD. Je dis non au rapport sexuel non protégé et de s'abstenir au rapport sexuel jusqu'au mariage.
L'implication parentale est davantage souhaitée pour les raisons ci-après évoquées par Koulibaly Salimata, proviseur du lycée moderne Dominique Ouattara de Kong.
Quant à nous les parents, il faut que nous nous occupions de nos enfants. Financièrement, nous puissions les soutenir parce que c'est ce qui pousse la plupart à dévier, notamment les filles. Et il faut que nous les mamans, nous arrêtions de nous positionner en complices souvent de nos filles.
Le gouvernement est également invité à soutenir ces activités de sensibilisation en milieu scolaire et à en faire une priorité. De retour de Fekir Sédougou, Marcel Boni Korogo, Radio de la Paix.
Hors de la Côte d'Ivoire, le gouvernement sierra-léonais a annoncé ce lundi 43 nouvelles arrestations en lien avec la tentative de coup d'État du 26 novembre, portant à 57 le nombre total de personnes arrêtées depuis ces événements, très majoritairement des militaires. Les derniers chiffres publiés le 28 novembre faisaient état de 14 personnes arrêtées, dont 13 militaires et 1 civil. Ces 57 personnes sont 37 militaires, 10 civils, 4 soldats congédiés de l'armée, 5 policiers en activité et 1 à la retraite, a détaillé le vice-ministre chargé de l'information, Youssouf Keke Thomas Sandi, sur la radio d'État, sans préciser le lieu et les circonstances de ces arrestations. Toujours hors de chez nous, après la création de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger envisagent passer à une autre étape, celle de la création d'une confédération et à terme d'une fédération. C'est du moins ce qui ressort d'une réunion de 2 jours à Bamako, la semaine dernière, des ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays. Comment expliquer une telle décision quand on sait que ces pays font partie de l'UEMOA et de la CDAO? Là-dessus, suivons l'éclairage de Dr Serigne Bamba Gueye, politologue sénégalais.
La création de l'Alliance des États du Sahel était une réaction qui répondait véritablement à la lourdeur des sanctions prises par la CDAO contre le Niger. Donc, la création de cette alliance, à mon niveau, était une création purement conjoncturelle. Alors que la confédération qui est annoncée est quelque chose de beaucoup plus consistant, de beaucoup plus significatif au plan politique et montre dans quelle direction ces 3 pays dirigés par les militaires veulent aller. À l'évidence, ces 3 pays veulent créer un bloc à l'intérieur de la CDAO pour montrer qu'ils ont leur vision et cette vision, même si elle n'agrée pas à l'organisation, doit être prise en considération. Rappelez-vous, récemment, lors des assises tenues à Lomé, on sentait de la part du ministre malien des Affaires étrangères, M. Diop, cette volonté de dire, écoutez, nous avons, nous, notre liberté de penser de manière différente qu'on vous, mais acceptons-nous comme tel. Je pense que c'est cette quête, en fait, d'une autonomie qui est sur la table, revendiquée par le Mali, le Burkina et le Niger à travers la création de cette confédération.
À l'instant, les propos de Dr Serigne Bamba Gueye, rapportés par Jean-Claude Comé. Voilà qui nous conduit au rappel des titres. Le RHDP se consolide sur le territoire et conforte son ancrage national avec 2 communes et 1 région remportée lors des élections locales partielles du 2 décembre. Ce sont les propos de Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP. Et puis hors de la Côte d'Ivoire, le gouvernement sierra-léonais a annoncé ce lundi 43 nouvelles arrestations portant le nombre total de personnes arrêtées à 57 suite à la tentative de coup d'État du 26 novembre dernier. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, votre magazine des questions économiques, Economia, avec Jean-Claude Comé.